Nous abordons la dernière partie de cette première demi-journée qui a été fort riche, et nous allons tout de suite parler du référendum et des consultations populaires, recours démocratique ou démagogie, avec un homme politique et éminent constitutionnaliste, Monsieur le ministre Jacques Lang, et un théoricien de la politique, philosophe, Thierry Ménissier, spécialiste de Machiavel. On dit toujours que ça ne sert à rien, que les gens sont tellement connus que ce n'est pas la peine de les présenter, mais j'ai constaté avec l'Université de Tous-les-Savoir que c'était très illusoire, donc je vous présente même Jacques Lang. Il est né en 1939, diplômé de l'Institut d'études politiques, docteur et agrégé de droit public et sciences politiques, quand je parle d'éminent constitutionnaliste. Il a été professeur à l'université de droit à l'université de Paris 10 Nanterre pendant de nombreuses années. Carrière ministérielle, je ne m'attarde pas là en revanche. Ministre de la Culture de 80 à 86, de 88 à 91, 91-92. Et ministre de l'Éducation nationale par deux fois, 92 à 93 et 2000-2002. Mandat électif, bien sûr, nombreuses publications, dont un Laurent de Médicis, dans lequel il avait rencontré notre ami Thierry Ménissier. Je signale les publications les plus récentes, Immigration positive avec Hervé Lebras, chez Odile Jacob en 2006, et Demain comme hier avec Jean-Michel Helvig en 2009. Thierry Ménissier, je présente tout de suite le second protagoniste, Thierry Ménissier, né en 1964, spécialité philosophie politique, agrégé de philosophie, docteur de l'École des hautes études en sciences sociales, actuellement maître de conférence de philosophie politique à l'Université Pierre Mendès France, Grenoble 2, thème de recherche Machiavel et la pensée historique politique florentine, travaux actuels sur les rapports entre la démocratie et la République comme forme d'éthos collectif, écriture, publication, là encore les plus récentes, Machiavel, élément de philosophie politique de 2005, très très utile, que je signale, une traduction de Machiavel, Le Prince, de 99, réédité en 2007, et surtout très récent, Machiavel ou la politique du centaure, chez Hermann, un gros livre de 558 pages, qu'il m'a envoyé, que je n'ai pas eu le temps d'ouvrir. Vous doutez pourquoi, mais je ne dirai pas, comme disait un de mes collègues, que c'est un monument que je me suis bien gardé de visiter, pas du tout, dit un collègue à propos de l'œuvre d'un autre collègue philosophe. Non, je me promets de lire son Machiavel, mais ces entretiens du jeu de paume m'ont empêché de faire autre chose que de le feuilleter. Voilà, donc je donne la parole tout de suite à monsieur le ministre Jacques Lang pour nous parler du référendum, et ensuite à Thierry Ménissier, et ensuite vos questions. Merci. Pas trop près, pas trop loin. Comment doit être l'homme politique?
Cher Yves Michaud, mesdames et messieurs, d'abord, félicitations à vous-même, cher Yves, et à Catherine, d'avoir conçu cette très belle idée. Catherine, où est-elle?
Et à Jean-Jacques.
Voyez, il ne faut jamais citer personne. Et à Jean-Jacques, qui ont imaginé avec vous ces rencontres. J'ai lu à l'entrée que c'était les premiers entretiens du jeu de paume. Donc j'imagine qu'il y aura les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes. Mais ne préjugeons pas. Parce que c'est une très belle idée. En ces lieux, la démocratie, la République. C'est une occasion aussi de redécouvrir une fois de plus Versailles, ces lieux qui sont à la fois royaux et révolutionnaires et déjà républicains. Bon, quelques mots, puisque je crois que la règle du jeu, c'est en quelques minutes d'esquisser ce que l'on ressent soi-même sur le sujet proposé, et ensuite à un autre interlocuteur que je salue, en particulier comme, en effet, grand spécialiste de Machiavel que je m'étais permis de consulter en son temps, avant qu'il y ait un dialogue avec vous, mesdames et messieurs. Nous sommes ici, dans cette salle du serment du jeu de paume, les hommes principalement les hommes, peut-être qu'il n'y avait que des hommes, je n'en sais plus rien, mais que des hommes, je pense, qui se trouvaient rassemblés ici, revendiquaient une chose et une seule, la création, la transformation des États généraux en assemblée nationale. Ils ne seraient pas venus à l'idée d'aucun, je pense, d'aucun, même les plus rousseauistes, d'aucun des participants, des élus aux États généraux, de revendiquer l'organisation de consultations populaires ou de référendums. Tant il était inscrit dans le sentiment de ce temps-là, en France, en Angleterre et ailleurs, là où la démocratie progressait, que l'expression la plus avancée de la démocratie, c'était l'institution d'assemblée ou de parlement élu. Et dans le débat qui, en France, a opposé Montesquieu et Rousseau, Montesquieu favorable à des assemblées représentatives et Rousseau favorable à l'appel au peuple, il considérait que nulle loi ne pouvait entrer en vigueur si elle n'obtenait pas l'aval du peuple, c'est Montesquieu qui l'a sur ce plan. Malheureusement, pas sur tous les autres. Je pense à la séparation des pouvoirs. C'est un autre sujet qui l'a emporté. Et la première constitution de notre pays, la constitution de 1791, dit explicitement et clairement « La nation de qui seule émanent tous les pouvoirs ne peut les exercer que par délégation. » On exclut donc tout recours à toute autre forme d'exercice du pouvoir. Quelques mots pour présenter ce qu'est aujourd'hui la situation ici ou là. À l'exception de la Suisse, qui constitue un cas particulier et assez remarquable en son genre, c'est une autre histoire, c'est une autre géographie, c'est une autre démocratie, assez admirable en son genre, je dois dire. À l'exception de la Suisse, le référendum n'appartient à aucune tradition démocratique mondiale. Aux États-Unis, pour parler vite, le référendum fédéral n'existe pas. Les référendums locaux peuvent exister ici ou là sous différentes formes. En Europe, les référendums nationaux sont le plus souvent une exception. En Allemagne et en Belgique, le référendum n'est pas prévu dans la Constitution, sauf pour des questions territoriales limitées. Et là où le référendum est inscrit dans les textes constitutionnels, ou éventuellement par une pratique, je pense à la Grande-Bretagne, c'est sur des questions liées soit à la souveraineté, et du coup les traités européens peuvent faire l'objet de référendums, soit à la révision de la Constitution ou à la transformation de la Constitution. C'est ainsi que le Danemark a utilisé pas moins de sept fois le référendum sur les questions européennes, l'Espagne seulement deux fois, une fois sur l'entrée de l'Espagne dans l'OTAN, c'était une question de souveraineté, ou le maintien plutôt de l'Espagne dans l'OTAN, à la demande de Felipe González, une seconde fois pour l'acceptation du traité européen en 2005. L'Irlande prévoit dans sa constitution le recours au référendum, notamment pour des traités comme le traité européen. La Grande-Bretagne est totalement étrangère à cette tradition, sauf que sur le tard, et par la pratique. Le référendum a été utilisé pour des questions, je dirais, territoriales ou liées à la souveraineté, justement, l'Irlande du Nord en 1973, pour le maintien de la Grande-Bretagne dans la communauté européenne en 1975, et il y avait le projet de Blair, qui finalement a d'ailleurs fait échouer toute tentative d'entrée de la Grande-Bretagne dans l'euro sur l'éventuelle adhésion ou entrée de la Grande-Bretagne dans l'euro. Pour notre pays, là aussi, le référendum fait une entrée relativement tardive dans notre droit ou dans nos pratiques. Et longtemps, c'est moins le cas aujourd'hui, le référendum a eu mauvaise presse dans les partis politiques, dans l'opinion publique. Et la rupture s'est produite avec les deux empires, Mais c'était des référendums plébiscites. Chacun des empereurs, chacun des candidats empereurs ou empereurs s'est livré à 3 référendums plébiscites qui avaient pour conséquence ou pour objet ou pour ambition de restreindre un peu plus les libertés et surtout de consacrer la légitimité du pouvoir du souverain. Le temps a passé. En 1945-46, pour des raisons liées à l'interprétation de ce qu'était le régime de Vichy, on s'est livré à 3 référendums successifs, mais qui n'étaient pas associés à une personnalité. C'était 3 référendums totalement démocratiques, qui n'avaient pas de conséquences directes sur le pouvoir exécutif, et ça a donné naissance à la 4e République. Mais le grand changement dans les institutions démocratiques françaises, c'est 1958. C'est la Constitution elle-même qui prévoit 2 modalités de recours au référendum. C'est le général de Gaulle qui a utilisé à plusieurs reprises le référendum, d'abord pour l'adoption de la Constitution en 1958, et à plusieurs reprises, par 4 fois, 2 fois sur l'Algérie, 2 autres fois sur les questions institutionnelles, l'élection du président de la République au suffrage universel en 62, et le référendum qui n'a pas obtenu succès sur les régions et sur le Sénat en 1969. Et ces référendums ont été critiqués par une fraction de l'opinion, principalement à gauche, présentés comme des référendums plébiscites. Mais d'une certaine manière, le général de Gaulle ne s'en cachait pas. Chaque fois, il liait son maintien à la tête de l'État à l'adoption par les Français du texte proposé. Et ces référendums ont été couronnés de succès, sauf celui de 1969. Et il a été très loyal vis-à-vis du pays, puisque le non des Français a entraîné son départ de la présidence de la République. Les référendums post-gaullistes, disons-le, Pompidou en a proposé un dont le succès a été modéré, qui portait sur l'entrée de la Grande-Bretagne, du Danemark et de l'Irlande dans le marché commun, un oui timide et surtout une participation faible. Sous François Mitterrand, il y a eu le référendum sur les accords de la Nouvelle-Calédonie. On peut dire qu'ils sont liés aussi à une évolution institutionnelle. Et puis, le référendum qu'il a failli perdre sur le traité de Maastricht, sur l'euro, en 1992. Un peu plus tard, sous le président Chirac, il y a eu le référendum sur le quinquennat, qui a été positif, même si la participation a été faible, parce qu'il n'y a eu aucun enjeu. Tout le monde était d'accord pour réduire à 5 ans le mandat présidentiel. Et puis, le référendum qui a été, lui, soumis qui a suscité controverses, polémiques, et qui s'est traduit par un résultat négatif sur ce qu'on a appelé le traité constitutionnel. Alors, à partir de là, quelle appréciation porter ? Alors, chacun a son point de vue, et le point de vue est à la fois juridique et politique. Personnellement, je le dis, comme on dit en français, tout de go, je suis extrêmement réservé au recours au référendum, pour différentes raisons. D'abord, la question qui se pose pour la France, c'est moins le recours à des référendums que le renforcement du Parlement. Et malgré la révision constitutionnelle qui a été opérée voici 2 ans, nous avons encore beaucoup de progrès à accomplir pour que le Parlement français soit un vrai Parlement à l'égal des parlements des autres nations. Et face à un exécutif qui, aujourd'hui comme hier, monopolise la souveraineté, je pense que le recours au référendum, c'est une manière de dévaluer, de démonétiser et d'affaiblir le Parlement. C'est souvent un détournement du sens du texte. C'est plus, on le sait, une réponse à la personne qu'à la question, même si le haut responsable, en l'occurrence le président de la République, n'engage pas sa responsabilité personnelle. M. Chirac n'a pas dit qu'il liait son sort à l'adoption du traité constitutionnel. Néanmoins, parmi les raisons qui ont porté les électeurs, ce ne sont pas les seules raisons à voter contre le traité proposé, il y avait une certaine impopularité à ce moment-là du président de la République. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons. Et donc, du coup, était mise en péril l'Europe, la construction de l'Europe et l'idée qu'on pouvait s'en faire. Au demeurant, je sais que ce n'est pas très politiquement correct ce que je peux dire à l'instant, mais tant pis, je le pense, donc je le dis. Ces traités européens sont illisibles, y compris pour les spécialistes. Et ils sont, j'allais dire, inévitablement difficiles à lire. On ne peut pas réclamer, c'est des institutions complexes, de transition, on passe d'un système d'État à un système intuitif, enfin, sui generis plutôt, qui n'est ni un État nouveau, ni, mais plus qu'une organisation internationale, donc c'est inévitablement complexe. Comment, de manière honnête, dire aux citoyens, vous allez juger du contenu du texte, ce qui fait que se surajoute, je dirais, un sous-texte ou un surtexte, la personne du président de la République, des batailles politiques sur le thème du libéralisme ou du socialisme ou de ceci ou de cela, et finalement, le texte devient secondaire par rapport à l'enjeu politique qui, de plus en plus, apparaît. En vérité, moi, je l'ai vécu auprès de François Mitterrand et secondairement à proximité de Jacques Chirac. Les deux présidents se sont imaginés naïvement, l'un et l'autre, au vu des sondages dont vous parliez à l'instant, plusieurs mois avant d'envisager de soumettre à référendum le traité européen, les Français disaient « oui, on est pour l'Europe, oui, on est pour le traité », mais le débat n'était pas ouvert. Et naïvement, François Mitterrand d'abord, Jacques Chirac plus tard, portés par ces fameux sondages, ont imaginé qu'ils pourraient faire une bonne opération politique l'un et l'autre. Avec François Mitterrand, ça a failli se casser la figure. Et disons-le, si ça ne s'est pas cassé la figure, c'est parce que le chef de l'État a payé sa personne. Le débat a été organisé de façon, je dirais, de haut niveau, en particulier avec Philippe Séguin. Et puis, il y avait encore la guerre en Europe, dans certains pays. Et quand on disait « l'Europe, c'est la paix », c'est un argument qui portait encore. Quelques années plus tard, ça ne portait plus « l'Europe, c'est la paix ». Et puis, disons-le, ça peut être parfois une source de démagogie. Ce n'est pas le cas dans un traité européen, évidemment. Ça n'est pas toujours le cas. Sur démagogie, sur les questions de société. Imaginez que dans les pays européens, on ait soumis la question de l'abrogation de la peine de mort à référendum. Il eût fallu attendre très longtemps avant que la peine de mort soit abolie. Très longtemps. Dans les pays du Sud en particulier, mais peut-être aussi dans les pays du Nord. Et Dieu merci, c'est par des lois ordinaires, par des lois simples, dans un débat normal et légitime au sein des parlements, que la décision a été prise d'abolir la peine de mort. Voyez le référendum récent sur les minarets suisses. Et je laisse à mon successeur à ce micro le soin d'évoquer éventuellement d'autres exemples. Je vais m'acheminer vers la conclusion provisoire. Les seules exceptions dont moi je suis pour que le Parlement exerce pleinement, souverainement, sa fonction législative et sa fonction de contrôleur de l'exécutif. Et je suis très réservé, je répète, à l'égard des référendums. Les seuls domaines dans lesquels, et avec précaution, on peut imaginer les référendums, c'est deux domaines. L'un, c'est lorsqu'il y a refondation du régime politique. Alors, il n'est pas anormal qu'à ce moment-là, le peuple soit appelé à dire son sentiment. Les citoyens grecs ont été appelés, après la chute des colonels, à dire s'ils souhaitaient ou non le maintien de la monarchie ou l'établissement d'une république sans monarque. Ils se sont prononcés très librement sur ce sujet, je répète, après la chute des colonels. En 1946, après cette guerre terrible, cette seconde guerre mondiale monstrueuse, il n'était pas illégitime et qui avait aboli les libertés en France, qui avait instauré un régime d'oppression. Il n'était pas anormal que l'on fasse appel aux citoyens pour leur demander leurs sentiments sur le futur régime. Il n'était pas non plus anormal que le général de Gaulle sollicite le suffrage populaire en 1958. On passait réellement d'un régime à un autre, d'un régime parlementaire à un régime, j'allais dire, présidentialiste. Et il ne serait pas normal, je le dis très franchement, puisque j'ai plaidé avec succès auprès de mes amis pour qu'ils l'inscrivent dans le programme présidentiel précédent, il ne serait pas anormal que, à l'occasion du scrutin présidentiel prochain, je parle pour la gauche, je ne peux pas rien dire sur d'autres partis politiques, que le candidat ou la candidate à la présidence de la République annonce, comme l'avait d'ailleurs fait notre candidate voici 3 ans, qu'en cas de succès à l'élection présidentielle, il ou elle soumettrait au pays un certain nombre de propositions clairement indiquées au moment de la campagne pour, et dans les 3 mois ou les 4 mois qui suivent, faire adopter par le pays un véritable changement de constitution, en tout cas des améliorations très sensibles. Et je crois que c'est nécessaire de le faire par référendum. Pourquoi ? Parce qu'il est des sujets sur lesquels, alors, là, ce n'est pas le populisme qui menace. C'est, je dirais, une certaine appropriation du pouvoir par les élus, à l'inverse. Ce sont les deux dangers. Le populisme d'un côté, l'appropriation du pouvoir par les élus. Si l'on veut réformer le Sénat, je parle devant la vice-présidente du Sénat, éminente vice-présidente, si l'on veut réformer le Sénat, je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire par une révision normale, par une révision traditionnelle. Si l'on veut remettre en cause un des anomalies françaises, le cumul des mandats et des fonctions, nous sommes le seul pays au monde démocratique qui accepte qu'un ministre puisse être maire ou qu'un député puisse être en même temps ou un sénateur puisse être président d'un exécutif local. Si l'on veut remettre en cause ce système qui asphyxie la démocratie, qui interdit le renouvellement des générations, qui empêche l'ouverture à des plus importantes à des femmes et à des personnalités ou à des jeunes, il faut, je pense que seul le référendum, me semble-t-il, pourrait permettre un tel changement s'il est annoncé loyalement, clairement, sans démagogie, au moment du débat présidentiel. Voilà la première exception que l'on peut, à mon avis, accepter, la refondation du régime politique, mais clairement annoncée et solidement présentée par les candidats. Puis la deuxième exception, mais j'arrête là, c'est le transfert de souveraineté. Exemple, Nouvelle-Calédonie, puisque on devrait, selon le référendum qui a eu lieu, s'acheminer vers une éventuelle indépendance, qui peut-être ne se produira pas, mais c'était une éventualité prévue dans le texte du référendum. Et si demain, autant je suis hostile, je le dis franchement, à des référendums sur les traités européens, j'approuve, on a fait procès à l'actuel président de la République de ne pas avoir soumis à référendum le traité de Barcelone. Bon, je l'ai totalement approuvé. Je trouve qu'il n'y avait pas à nouveau à soumettre pendant des mois et des mois le pays à sang et à feu, et à réouvrir un débat qui n'avait que trop duré. Il y a une exception. C'est si demain, mais ce n'est pas demain la veille, on décidait de passer à un régime fédéral européen. Si on décidait demain de s'acheminer vers une construction fédérale européenne, si l'on décidait demain de construire les États-Unis d'Europe, alors là, il serait totalement légitime et même nécessaire que les Français et sans doute les citoyens d'Europe se prononcent. Mais c'est une hypothèse pour l'instant totalement théorique et malheureusement, selon moi, de plus en plus théorique. Voilà, Monsieur le Président, quelques mots imparfaits qui ne prétendent pas à l'exhaustivité que je me suis permis de soumettre à notre réflexion commune.
Eh bien, merci. Alors maintenant, à Thierry Ménissier.
Merci Yves. À vrai dire, ce merci est teinté d'une sorte d'amertume, puisque lorsqu'il y a quelques mois, par l'intermédiaire de Catherine Lolès, tu m'as contacté pour me dire que je pourrais me pencher sur la question du caractère démocratique ou démagogique des consultations populaires. En tant que philosophe politique, je me suis réjoui de cette bonne occasion de m'intéresser à une chose vraiment fondamentale, me semble-t-il. Mais j'ai découvert progressivement que c'était dans la salle du jeu de paume, aux côtés de Jack Lang, et que j'avais une demi-heure pour le faire. Donc, l'exercice, à vrai dire, est périlleux. Et il m'appartient aussi de conclure cette première journée, de par ma position dans le tour de parole. Et beaucoup de choses ont été dites, comme Yves l'a rappelé tout à l'heure, de grande qualité. Donc je vais simplement, si vous le permettez, procéder par un certain nombre de notations ou de touches. Ce dont il est question avec le sujet qui nous intéresse, il s'agit bien sûr du référendum, mais aussi des consultations populaires directes, au sens plus général du terme. Même si le fait d'étudier un petit peu cette question, finalement, atteste très vite que dans l'exemple français, le référendum a pris la part prépondérante, c'est devenu le cas d'espèce des consultations populaires directes en France. Et plus particulièrement, ainsi que le rappelait mon prédécesseur, cette forme référendaire, à la grande différence de la Suisse, qu'est le plébiscite. Voilà, ce qui est quand même très particulier. J'aimerais quand même rappeler qu'en termes de consultations populaires, nous parlons d'un avis collectif qui n'a pas du tout la même valeur que le renseignement de type sociologique ou psychologique que nous évoquions tout à l'heure dans la session précédente, en parlant des sondages d'opinion. Nous parlons bien d'un acte de consultation, mais aussi de constitution de la souveraineté collective. Le professeur Vauvel, en début d'après-midi, a rappelé que dans ce lieu, précisément, ce lieu si impressionnant, s'est produit un moment fondateur, celui du serment du jeu de paume. Des représentants, je crois que le point mérite d'être souligné, des représentants se sont, au prix de plusieurs difficultés d'organisation, se sont émancipés d'une autorité de tutelle et ils se sont consultés eux-mêmes comme un peuple le ferait. Donc dans ce « comme un peuple le ferait » se jouait véritablement quelque chose de très important. Ce moment fondateur, si j'ai bien compris ce que disait le professeur Vauvel, avait trois significations. Il est fondateur parce qu'il modifie l'histoire, premièrement. Deuxièmement, il est fondateur parce qu'il crée une possibilité, ou plus exactement un faisceau de possibilités, que la suite chronologique va plus ou moins actualiser. Enfin, dans un dernier sens, il est fondateur parce qu'il s'agit de ce qu'on peut nommer une donation initiale de sens. Une donation initiale de sens qui renvoie à ce que signifie, ou si l'on est pessimiste, à ce qu'a signifié au passé la politique pour toute la modernité. Alors, bien entendu, ainsi entendu, ainsi requalifié dans sa généralité et dans ce qu'il a finalement d'aventureux et d'impressionnant, le moment de consultation populaire donc touche à ce qu'on appelle le pouvoir constituant. Et dans le texte, disons préliminaire maintenant, que j'ai écrit et qui est publié aujourd'hui dans le journal Le Monde, je me permets de vous y envoyer parce que je ne vais pas redire ce que j'ai écrit, j'ai insisté personnellement sur l'ambiguïté fondamentale de ce, du point de vue démocratique, de ce type de procédure. Je suis tout à fait d'accord avec Jack Lang sur le fait qu'il s'agit bien d'une sorte de variable incontrôlable. Je ne sais pas si j'opterai pour la naïveté de François Mitterrand et de Jacques Chirac. En revanche, il est certain que lorsque nos dirigeants en France proposent ce type de consultation, ils jouent littéralement avec le feu. Et un certain nombre d'études de sciences politiques très importantes ont jalonné la réflexion des universitaires sur cette question du référendum. Et il s'agit toujours de mettre en lumière le fait que le référendum, la consultation populaire au sens plus large, dans la vie politique française particulièrement, fait naître une sorte d'incertitude et de risque. Alors, en philosophe politique, tourné vers les classiques, visant à essayer de les éprouver, les réinterpréter, moi il me semble, c'est ce que j'ai écrit dans le Monde, que la consultation fait émerger ce que les anciens Grecs, c'est un saut abyssal, je le sais, mais je l'assume, appelaient le thumos, qu'on peut traduire par l'énergie, qu'on peut traduire aussi par le tonus. Il s'agit de cette énergie individuelle et collective, déclinée par Homère et par Platon, deux grands auteurs politiques, qui se décline sous la forme du courage guerrier, de la colère populaire, de l'impétuosité donc dans le comportement civique. Et dans mes études d'études d'histoire des idées politiques sur Machiavel, j'ai essayé de montrer que le républicanisme machiavélien, Machiavel est un extraordinaire auteur républicain, le républicanisme machiavélien, dans une forme de spéculation néo-romaine, tente de produire cette mobilisation de l'énergie collective en assumant son caractère incontrôlable. Il y a en effet avec, vous voyez, avec ces consultations populaires directes, me semble-t-il, un avantage qui est en même temps un inconvénient majeur. C'est celui de mobiliser l'incontrôlable. Ce matin, Pierre Rosanvallon a évoqué des procédures d'économisation en politique. J'ai retenu ce terme parce que précisément, il me semble que dans l'énergie timique, on peut dire aussi, dans ce tonus collectif qui est mobilisé lors de la consultation populaire, eh bien se joue, je crois, l'expression du caractère profondément anti-économique de la vie politique. Alors, cela dit en guise d'introduction, je me contenterai de faire deux remarques et suivies d'une préconisation personnelle. Ces deux remarques, les voici. D'abord, dans un ouvrage classique que les politistes connaissent bien, David Butler et Austin René, un ouvrage de 1978, c'est un ouvrage, un ample ouvrage de sciences politiques américaines qui dresse finalement une étude comparative des différents référendums dans l'histoire. Eh bien, ces auteurs finalement attestent du fait que les consultations populaires, lorsqu'elles ont lieu dans les différents pays de manière très variée, augmentent le consensus dans les sociétés où il est fort ou dans les moments historiques où il est fort, et le fragilise, ce consensus, dans les sociétés ou dans les moments historiques où il est faible. Alors, cette réflexion, ce constat de politiste m'interpelle, si je peux m'exprimer ainsi, en tant que philosophe politique, sur finalement ce que c'est que la vie politique pour une démocratie. Que vaut ce jugement à propos du mode de vie ou du type de gouvernement démocratique? Je crois que ce constat de politiste nous permet de nous interroger sur ce qu'est précisément la politique démocratique. Il me semble qu'en dépit de son caractère institutionnel, de sa réalité étatique très structurée, la politique démocratique renvoie moins à un régime qu'à une forme de vie, ou même à ce qu'on pourrait nommer une allure de la vie. On sait, par exemple, en lisant Platon ou Machiavel, qui furent aussi des citoyens et des acteurs de la vie politique de leur pays, que cette forme de vie démocratique est instable, tumultueuse, divisée au point d'être contradictoire avec elle-même, indécise et imprévisible, quand elle est en bonne santé. En revanche, quand elle est en mauvaise santé, elle est débile, prévisible, incapable d'inventivité, conformiste, conservatrice. En d'autres termes, le consensus n'est pas nécessairement l'indice d'une politisation de qualité. Le consensus n'est pas nécessairement l'indice d'une vie politique, en pleine santé, malgré ou à cause des contradictions vécues. Telle est ma première observation. La question des consultations populaires directes, dans leur rapport à la démocratie, nous donne le moyen, ici, de nous interroger sur les fins de la démocratie. Quel régime de vie est collectivement souhaitable? Non pas en général, mais pour la France aujourd'hui, précisément. Avec quelle passion collective souhaitons-nous composer? Alors, c'était ma première observation. Deuxième observation, je crois qu'il y a deux considérations que l'expérience acquise depuis bientôt 300 ans en matière de démocratie et de théorie politique de la démocratie nous permet de formuler. Ces deux considérations sont à la fois critiques et complémentaires. D'une part, on ne peut croire, c'est-à-dire précisément adhérer avec une ferveur aveugle à l'existence du peuple, entendu comme une unité substantielle, une volonté générale pure, un sujet collectif légitime et univoque, ou encore un pouvoir constituant qui serait régénérateur de manière permanente de sa propre souveraineté. Il faut le reconnaître, et tel était mon sentiment en écoutant la session précédente, les sondologues, si j'ai bien compris. Eh bien, ce qui me semblait, en tant que philosophe politique tourné vers les concepts normatifs, non pas ce qui est, mais ce qui doit être, eh bien, il me semble que ce dont on a entendu parler, c'est que les masses, effectivement, sont parfois, souvent, sociologiquement hétérogènes, voire psychologiquement hétérogènes. Alors, je veux dire que l'histoire de la vie démocratique des 300 dernières années, en incluant là-dedans le moment de constitution anglais, par exemple, au XVIIe siècle, L'histoire de la vie démocratique nous apprend que les moments de fusion collective sont aussi des moments d'errance, de détournement de l'énergie collective, voire de captation démagogique du désir de commun. Les consultations populaires directes sont évidemment sujettes à être utilisées stratégiquement dans un sens non démocratique, c'est-à-dire non favorable au pluralisme et non favorable à la liberté, ces deux principes de la vie démocratique. Qui plus est, en suivant les méditations d'un philosophe provocant, mais très très intéressant, je crois que Yves partage le même jugement que moi sur lui, Peter Sloterdijk, en suivant les considérations de Peter Sloterdijk sur la colère, dans son livre « Colère et temps », il faut bien admettre, qui plus est, qu'il y a un échec historique de ce qu'il identifie comme la captation idéologique de la colère populaire par le communisme international. Sloterdijk, dans « Colère et temps », propose une analyse de l'histoire du communisme, comme la tentative de constituer une banque mondiale de la colère, une sorte d'économie du thumos. Il y a un échec historique, dit Sloterdijk, et sur ce point, je veux bien le croire. Alors, c'était donc cette première considération. La deuxième est la suivante. D'autre part, dans le même temps, il serait totalement erroné, et je crois inconvenant dans ce lieu, d'estimer que la démocratie peut se passer des consultations populaires directes. En effet, la démocratie libérale, née dans les textes des philosophes du XVIIe siècle, a payé très cher le fait de s'enfermer dans le système représentatif. Ainsi que le montre Bernard Manin dans son étude de référence « Principes du gouvernement représentatif », ce système représentatif présente, certes, de très forts attraits en termes d'assiette gouvernementale. Il a le mérite et aussi le défaut majeur de reconstituer de nouvelles élites, potentiellement coupées de la souveraineté populaire. C'est, indique Bernard Manin, ce qu'il doit à l'origine aristocratique du mode de l'élection. En effet, Manin montre bien que dans les démocraties dignes de ce nom, dans l'Antiquité, la désignation des représentants se faisait par tirage au sort. Tandis que l'élection donc, était revendiquée par les aristocrates fortement antidémocrates. J'y reviendrai. Alors, bien entendu, l'histoire nous montre que ce qu'elle gagne en stabilité gouvernementale, la démocratie le perd, potentiellement, tendanciellement, parfois dangereusement, en légitimité populaire. Tout se passe donc, pour conclure cette deuxième observation, comme si l'on assistait à une double imputation d'irresponsabilité, extrêmement embarrassante. Les tenants du système représentatif soulignent, parfois en aparté, l'immaturité politique du peuple, son incapacité. Les tenants des consultations populaires directes soulignent l'irresponsabilité des parlementaires, en tout cas tendanciellement, qui sont suspects d'être soumis à des intérêts implicites, non politiques. Cette irresponsabilité peut s'apparenter parfois, de manière extrémiste, à un vague soupçon de corruption. Donc on a une sorte de, si vous voulez, de situation très, très contradictoire, très difficile à penser. Bref, comment en sortir? D'où ma prescription, jeune philosophe. Je me permettrai d'obéir à mon saint patron Nicolas Machiavel, qui dit que, au fond, la vertu, faite d'impétuosité, bien sûr, de thumos, peut caractériser parfois la jeunesse. Je pense qu'il est possible de s'en sortir par le haut, c'est-à-dire en politisant la question et en œuvrant à une culture politique commune. Dans le texte du Monde, je souligne le fait que, je suis d'accord avec Jack Lang sur ce point, le référendum ne permet pas une culture politique de la participation. C'est une forme vraiment historiquement favorable, et l'histoire le montre, à la démagogie plutôt qu'à la démocratie. Voilà. Sans doute faut-il revenir sur cette question que je posais initialement. Comment politiser l'énergie collective? Comment politiser l'ardeur passionnée du peuple? Ici, très rapidement, trop rapidement, je me tournerai vers une page extraordinaire d'Aristote qui, dans Les Politiques, livre 3, chapitre 11, se livre à une étrange opération. Très rapidement, vous savez, les politiques d'Aristote, c'est son cours de philosophie politique noté par ses étudiants. Dans Les Politiques d'Aristote, ouvrage vénérable transmis par une tradition universitaire ancestrale, le stagirite Aristote ne jure que deux fois. Il ne jure que deux fois, il dit « nédia » en grec. Ça veut dire « nom de Zeus », nom de Dieu. J'imagine que les étudiants terrorisés ont noté le juron du maître. Les deux fois, c'est à propos de la puissance du peuple. C'est à propos du caractère gênant de la démocratie, du caractère violent, embarrassant de la démocratie. Précisément, dans le texte auquel je fais référence, Politique 3.11, Aristote sort de ses gonds à propos de la souveraineté de la masse, to pletos. C'est même pas le démos, qui est une force sociale et un agent politique, un sujet politique. C'est pletos, la masse. Hein, on dirait, je sais pas, the people, la foule, les gens. Alors, Aristote, en effet, estime que le peuple est comme une bête sauvage, terion en grec, hein, selon une métaphore antidémocratique très typique des textes aristocratiques des penseurs philosophiques grecs de la politique. Pourtant, Aristote reconnaît que le peuple a une puissance, tout sauvage qu'il est, tout dangereux qu'il est pour les gens bien. Hein, le texte parle des gens bien, spoudaios, les gens bien, les gens qui sont des gens bien. Eh bien, le peuple, malgré tout, a une forme de légitimité dans sa prétention au pouvoir souverain, même pour Aristote. Ce n'est pas sa puissance collective, ce n'est pas sa puissance collective qui fait ça. C'est plutôt le fait que, dans un raisonnement stupéfiant, de passage à la limite pour un homme comme Aristote, le quantitatif se transforme en qualitatif. Le peuple a plus de bras, plus de mains, plus de têtes. Qu'un individu singulier. Première métaphore. Deuxième métaphore, lorsqu'on va au banquet et que chacun, comme dans une auberge espagnole, dirions-nous, apporte de quoi manger, c'est mieux qu'il y ait plus de gens, dit Aristote. On mange mieux. Dernière image utilisée par Aristote, et c'est une image extraordinaire, enfin, compte tenu de nos propres procédés de rectification médiatique, une multitude d'individus, une foule d'individus beaux, peut constituer un individu plus beau qu'un individu réellement beau. Donc une sorte de morphing généralisé. Et ça se termine par une allusion subtile, mais à mon avis fondamentale, au fait que les jugements collectifs de goût peuvent être, s'ils sont collectifs, supérieurs aux jugements individuels. En dépit du fait que, stricto sensu, c'est un passage à la limite, les individus excellents, sont meilleurs, ameinon en grec, sont meilleurs, si vous voulez, que la masse. Il est question de juger, krinein. La masse peut juger mieux que le peuple, krinein. Krinein, ameinon en grec. Alors c'est totalement stupéfiant, ce passage est gommé par les aristotéliciens pur jus, mais enfin, il veut quand même bien dire, par la référence finale, que le peuple athénien, bruyant, pénible, invectivant, interpellant, des méditerranéens, vous voyez, pas de moyens électroacoustiques de communication, se rassembler pendant des semaines dans des amphithéâtres pour écouter des pièces de théâtre, ils devaient ensuite juger, comme vous le savez, dans les concours de tragédie, qui de Sophocle ou d'Euripide, dans telle trilogie, c'était des trilogies, ça durait très longtemps, était supérieur pour des raisons esthétiques. Alors, je crois ici qu'il y a une manière extrêmement, il y a quelque chose, une manière, oui, extrêmement forte, extrêmement importante même, je crois, et qu'il faut souligner. En effet, la tâche des élus dans un système représentatif n'est pas de se dérober à la question de la consultation populaire, du désir de consultation populaire. Il me semble que la tâche des élus est de susciter cette intelligence collective. Elle est, bien sûr, pour susciter cette intelligence collective aussi, tout aussi bien, d'assumer le caractère hautement instable de la participation démocratique. Peut-être faut-il accepter qu'il n'y a pas de formule fixe, accepter qu'il n'y a pas d'économie du thumos. Lorsqu'il est authentique, il est inquiétant, il crée de l'aléatoire et il est effectivement potentiellement dangereux pour les traditions, les usages et les procédures. En même temps, je crois qu'il convient de rassurer tout le monde. J'en discutais avec un ami hier, un politiste à Grenoble, qui me faisait remarquer que les désordres publics des masses sont finalement très rares. Et que, au fond, les désordres politiques sont très rares dans nos sociétés. Il ne faut pas confondre l'expression populaire politique et la délinquance, et la destruction de la cité. Même si parfois, comme le note judicieusement Machiavel, ça y ressemble. Machiavel parle de l'exemple romain en disant « Quand on voit le peuple prendre les armes dans la rue, s'exciter, oui, évidemment, ça fait peur et ça ressemble à de l'anarchie pure et simple. Mais telle était la vitalité de Rome. Telle était la férocité de ce peuple ferocissimo. Popolo ferocissimo, dit Machiavel. Les Romains étaient vertueux parce qu'ils étaient très féroces. Donc, plus modestement, peut-être parlons-nous ici de la pensée politique d'avant la sécularisation, d'avant la déthéologisation. Ici a eu lieu un serment. Le professeur Vauvel le rappelait. J'avais développé, mais je ne vais pas développer, puisqu'il l'a fait bien mieux que moi. Un serment est une forme théologique de rapport à autrui. Donc, il y a l'appel à une communauté sous le regard d'une transcendance. Les serments ne concernent plus la politique de nos jours. Ils concernent, au mieux, les histoires d'amour. Nous nous engageons devant l'Éternel à nous aimer toujours. En politique, on contracte. La contractualisation, je l'ai essayé de le montrer dans un article autrefois qui parlait des monarchomaques, ces auteurs du XVIe siècle qui ont été les premiers à utiliser la logique contractualiste, grâce à une logique de serment, curieusement, de manière très paradoxale. Eh bien, si vous voulez, il y a eu un passage dans notre histoire de sécularisation, de déthéologisation contemporaine de la déféodalisation mieux connue, où finalement ce qui se passe, c'est la fin de la transcendance. Alors, vous voyez, on n'est plus dans ce paradigme sans doute, on n'est plus dans ce modèle. Nos fureurs sont bien éteintes par ailleurs. Nos promesses sont des promesses contractuelles, des promesses bien délimitées. Simplement, ce que nous pouvons faire, c'est réfléchir à ce que peut être la matrice de la culture politique commune de la participation. Alors, peut-être est-il possible, et c'est ici que je jouerai la carte de ma jeunesse, mon innocence, peut-être serait-il possible de procéder de manière immanente et non plus transcendante par la sécularisation de tous les jugements littéraires. Pourquoi seraient-ce des experts qui attribuent le prix Goncourt et non pas des citoyens tirés au sort participativement, qui délibéreraient? Et qu'en serait-il pour le Festival de Cannes, pour le cinéma? Au bout de quelques années, je vous le garantis, nous serions des Athéniens. Notre goût politique serait supérieur à ce qu'il est. Nous pourrions juger mieux que des individus excellents qui sont des experts. Bon, je vois que cette proposition vous réjouit. Avançons d'un pas. Qu'en est-il? Mais évidemment, c'est une idée folle de philosophe et les sondologues vont me dire « Mais enfin, ça ne correspond à rien. L'opinion publique relève de la rumeur, elle ne peut pas être politisée. » Bon. Qu'en serait-il, par exemple, d'innocents ateliers d'écriture de la loi commune? Au lieu de plancher sur un texte que personne ne peut lire. Les gens sont-ils si bêtes qu'un peu entraînés par des experts, je me dévouerai à la cause s'il le faut, eh bien, ils pourraient proposer d'inventer, non pas les articles de loi les plus complexes qu'on puisse imaginer, mais d'inventer le style commun de la loi collective. La passion, même vive, n'interdit pas l'intelligence. Mieux, l'intelligence politique se nourrit de la passion. Alors, je suis frappé du fait que dans son remarquable livre, le professeur Henri Oberdorf, livre récent « La démocratie », à l'ère numérique. Je ne vais pas avancer plus, le temps me manque, puis on en parlera demain du numérique. Mais le professeur Oberdorf, dans son très bon livre, signale qu'en Estonie, petit pays vigoureux démocratiquement, a eu lieu depuis 2001 l'expérience « Today I decide ».« Today I decide ». Eh bien, grâce à ce système d'Internet, un certain nombre de citoyens peut se mettre en ligne à créer un texte participatif commun qui consiste en une sorte de brouillon rédactionnel, mais qui est une effective initiative populaire électronique, vous voyez, développée dans une forme de stylisation, d'écriture. Il s'agit bien, comme pour le serment, de déclarer une parole, mais elle n'est plus transcendante, elle est immanente, on construit quelque chose, et tout citoyen peut, dans le cadre d'un forum électronique, soumettre une proposition de loi qui sera discutée pendant 10 jours par les intervenants, puis soumise à leur vote. Si se dégage une majorité absolue de vote positif à propos de ce texte, il est transmis au ministère compétent, qui dispose d'un mois pour exposer sa position grâce à un texte augmenté, rappelle Henri Oberdorf. Donc, ingénieux estonien. Et alors, je dirais simplement que, pour terminer à présent mon développement, que sans la conception, en tout cas, de ce type d'expérience, il me semble bien que notre système politique est en voie ou se comprend au risque d'une sorte de folklorisation. Le folklore est quelque chose d'assez stupéfiant à mon point de vue, je m'intéresse beaucoup à la philosophie de la culture, puisqu'il consiste, en tout cas le processus de folklorisation, consiste en une sorte d'amollissement des usages, des traditions, et en même temps de durcissement de ces traditions. Lorsqu'on folklorise un rituel, on le montre à l'extérieur comme étant celui qui nous caractérise. C'est notre rituel. Et les étrangers auraient bien tort de nous manquer de respect. Simplement, à l'intérieur, nous savons bien, quand les Indiens font leur pow-wow devant les touristes qui arrivent par car. Ils savent bien sans doute que ce n'est plus exactement la même chose. Les esprits des ancêtres ne sont plus vraiment là. À vrai dire, je me suis un peu renseigné sur ce qui se passait, ils sont là sans être là. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a moins de confiance collective, moins de confiance dans ces grands absents qui constituent notre tradition. En d'autres termes, la République risque bien de se folkloriser si elle ne redonne pas un certain sens, un sens qu'il convient d'imaginer collectivement, à cette notion de consultation populaire directe. Je vous remercie.
Eh bien, merci, et je pense qu'il y aura sûrement des questions et des réactions à ces deux prises de position. Tout de suite devant, si vous voulez venir. Attendez, on va vous passer un micro. Devant. Hein. Ici aussi, monsieur. Des questions un peu... Non, attendez, un micro. Et des questions, si possible, rapides.
Ça va? Bon. Bonjour, monsieur Dain. Aujourd'hui, on est une journée mémorable, c'est le 18 juin, et il y avait alors le général de Gaulle, dans un premier temps, qui avait la résistance. Et moi, aujourd'hui, je voudrais m'attaquer à quelque chose que lui, il a mis en place, mais plus tard. C'est-à-dire, le 18 juin, c'était certainement un jour qui était très important, qui était résistant. Mais comme il a, dans la Constitution, mis le référendum et l'élection présidentielle par le peuple, je reproche les deux là, c'est-à-dire l'élection présidentielle, elle élit un homme. Et le référendum, c'est pour une chose. Mais c'est finalement, c'est le peuple qui est demandé. Et je me demande si c'est une chose qui est valable, si on a des élus, mais actuellement, est-ce que dans cette constitution qu'on a aujourd'hui de 1958, est-ce qu'elle répond à quelque chose que Montesquieu qui a mis en place ou qui a évoqué, c'est la division des différents pouvoirs, c'est-à-dire l'exécutif doit être, à mon avis, séparé de législative et de judicative, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas dans cette constitution. Merci. D'accord. Et je voudrais poser cette question, monsieur, si c'est possible de faire ça et par quels moyens. Merci.
Oui, ce n'est pas tout à fait le même sujet, mais c'est un beau sujet, c'est un très beau sujet. Très beau sujet que la séparation des pouvoirs. Peut-être vraiment on peut établir des liens entre les différents sujets. Non, vous avez tout à fait raison. Au pays de Montesquieu, la séparation des pouvoirs est depuis longtemps sans cesse bafouée, ignorée et piétinée. La France est sans doute le pays démocratique dans lequel la séparation des pouvoirs n'existe pas vraiment. Naturellement, au sein de nos institutions, la prééminence de l'exécutif, combiné avec un scrutin majoritaire qui a pour conséquence que l'Assemblée suit le plus souvent les injonctions ou les directives de l'exécutif, fait que la séparation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, n'est pas assurée. La faiblesse des pouvoirs du Parlement, malgré les améliorations apportées voici 2 ans, tout cela montre que le système français est un système aux antipodes de ce que Montesquieu préconisait. Et d'ailleurs, nos amis des autres pays sont stupéfaits lorsqu'ils viennent en France et regardent de près nos institutions de constater à quel point les assemblées sont placées sous tutelle. Et ce n'est pas seulement depuis 3 ans, c'est depuis longtemps déjà, de l'exécutif. Même observation, mais c'est différent en ce qui concerne les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Mais je dirais plus grave encore que ce que je décris à l'instant, c'est toute notre société qui est d'une certaine manière l'ennemi de la séparation des pouvoirs. Quand vous observez de quelle façon, dans l'économie, dans les compagnies privées, les mêmes personnes concentrent les pouvoirs, d'un conseil d'administration à un autre. J'évoquais tout à l'heure le cumul des fonctions et des pouvoirs. C'est en effet un petit nombre de personnes élues qui ont entre leurs mains le pouvoir ministériel, le pouvoir exécutif local, le pouvoir parlementaire. Je crois que c'est un grand sujet peut-être à retenir pour les prochains entretiens de Jeux de Paume. Quid de la séparation des pouvoirs dans la société française ?
Oui, par rapport à cette question, parce qu'après tout, c'est une élection présidentielle directe.
Oui, voilà, oui, non, bien sûr. Il est certain, c'est un cas que je n'ai pas pu traiter, parce qu'il y a un certain nombre de variantes très importantes qu'on a commencé à esquisser, disons les deux conférenciers ont commencé à esquisser, mais c'est vrai que l'élection présidentielle dans le système français est, disons-le, intéressante et choquante, parce qu'elle est intéressante en ceci qu'il semblerait que ce soit un authentique moment de politisation, effectivement, et choquante dans la mesure où, au fond, comme pour le plébiscite, manifestement, la personne passe devant son programme ou ses idées. Voilà. Donc ce qui nous semble, vous voyez, ça renvoie à une image par un miroir cruel, c'est que le moment où nous sommes le plus politique est en même temps le moment où nous avons le plus de mal à produire cette montée en généralité. Cette montée en généralité, en quoi consiste, me semble-t-il, la politisation ? La question de l'intérêt général est moins que jamais posée dans ces moments-là, alors qu'elle devrait. Alors maintenant, vous parlez de Montesquieu, je suis un humble spécialiste des théories politiques. Bon, bien sûr, Montesquieu, mais il y a toujours eu un écart entre les principes et les faits. Et je crois que globalement sur l'expérience des 300 dernières années, les choses sont loin d'être parfaites, mais tendanciellement, l'adoption de procédures de plus en plus fines, la discipline des citoyens en France fait que je suis certain que le principe de la division des pouvoirs, de la distribution des puissances, comme dit Montesquieu, est beaucoup plus respecté à présent qu'autrefois, même si effectivement nous devons poursuivre nos efforts.
Monsieur, c'est ici là, qu'il y avait une question ? Il n'y avait pas une question ici, non ? Non, pas du tout. Il y en a d'autres, je suppose. Voilà, ici, monsieur.
Bonsoir. Est-ce que le net ne va pas créer progressivement une sorte de référendum ?
L'Internet.
Bon, très rapidement, je vous renvoie à l'excellent ouvrage que j'ai mentionné, qui fait vraiment le point, c'est une synthèse qui fait le point et qui pose ces questions. Quel est le potentiel politique en termes de, disons, de démocratique, au sens multiple du terme, de ce nouveau type d'instrument ? Alors, le potentiel est réel, les mises en œuvre sont complexes. Et le livre insiste, et je suis assez d'accord avec lui, sur le fait que, écoutez, se joue là-dedans une fracture, non pas sociale, mais numérique. C'est une fracture sociale, en fait. C'est-à-dire que le potentiel politique, alors, favorable ou non à la démocratie, d'internet, on le traitera cette question demain, je crois, il y a une session spéciale pour ça. En tout cas, se discute, non pas tellement du point de vue de la technologie pour l'instant, mais de l'accès des concitoyens aux instruments. Donc, fait partie de cette culture politique commune, le rapport à un certain nombre d'instruments. Voilà. Donc moi, je répondrai comme ça.
Vous avez éludé, malgré tous vos propos qui sont intéressants, la question fondamentale, qui est la différence entre le référendum. Quand je réponds à un référendum, je réponds à une question, j'exprime un choix. Lorsque je vais voter pour élire quelqu'un, je signe un chèque en blanc. Cette personne-là, bien souvent, ne répond pas à ce qu'elle a promis et à ce qu'elle fait. Heureusement qu'il y a des référendums pour remettre la barre au milieu de temps en temps et leur dire « Attendez, attendez, nous, on veut ça. » Et pour ce que nous exprimait monsieur ensuite après, en disant que « Est-ce que 10 personnes sont plus intelligentes qu'une ?» C'est pas là le sujet. Le sujet est de savoir, c'est pas de savoir non plus si la loi est meilleure ou moins bonne. Le sujet est de savoir si la loi convient au plus grand nombre. On en arrive maintenant, tout simplement, si vous regardez ce qui se passe, les gens ne vont plus voter. Versailles, plus de 50% d'abstention dans le bureau de vote où j'étais. C'est pas quand même Versailles une ville, c'est pas le fin fond du désert, hein. Ce seraient normalement des gens qui devraient s'intéresser à la politique. Et quand vous leur demandez pourquoi, ils vous répondent « ça sert à rien ».
Sur la dépolitisation.
Oui, non, mais ce n'est pas lié à la question du référendum. C'est il y a une crise de la société politique, une crise de la politique, une crise morale, je dirais même, qui explique par beaucoup de facteurs qui ne sont pas liés à la fréquence ou non des référendums. C'est un sujet beaucoup plus profond, beaucoup plus difficile, beaucoup plus inscrit dans la réalité. Dire que l'on donne un chèque en blanc à la personne que l'on choisit, il existe quand même des campagnes législatives. Je parle pour l'Assemblée nationale qui confronte les idées, les programmes, les engagements. Et en effet, il advient que certains personnages politiques ne tiennent pas leurs engagements. Et c'est aussi une des raisons, en effet, de la dévaluation de la politique. Là, vous avez raison. C'est une des raisons qui décourage, qui dégoûte, qui fait que les citoyens ne croient plus à la possibilité pour le pouvoir politique d'exercer une véritable influence. Si on prend des questions qui, jusqu'à ce jour, sont restées non réglées, je pense à la question des quartiers populaires, sur lesquels, à propos desquels tant et tant de promesses ont été faites, je ne sais quel plan Marshall ici ou plan Marshall ailleurs, qui fait que les populations concernées aujourd'hui pensent que voter, en effet, ne sert à rien. Mais ce n'est pas lié à l'usage fréquent ou non fréquent du référendum. J'ajoute que parmi les mots, peut-être que ce que je vais dire à l'instant vous heurtera, et je suis très minoritaire sur ces sujets, parmi les mots qui affectent la démocratie française, il y a, je l'ai dit, le cumul des mandats. Pourquoi ? Parce que l'élu est moins disponible s'il est accaparé par mille et une fonctions, est moins accessible, moins concentré sur le mandat unique qui devrait être le sien. Mais il y a aussi un autre élément qui, dans la démocratie française, au fond, irait un peu dans votre sens. Moi, je considère que les mandats, et je suis seul de mon avis, que les mandats sont beaucoup trop longs. La moyenne de la durée des mandats électifs dans les autres démocraties est de 4 ans. 4 ans en Allemagne, 4 ans en Espagne, 4 ans au Danemark, 4 ans en Suède, 4 ans aux États-Unis, parfois 2 ans pour la Chambre des représentants. Et une des réponses à la question que vous posez en opposant l'élection de députés et le référendum, c'est de raccourcir la durée des mandats. Et parmi les améliorations apportées au cours des années précédentes, le raccourcissement à 5 ans du mandat présidentiel est un progrès. Et moi, personnellement, je préconise, mais je suis seul de mon avis, donc il n'y a aucune chance que ça bouge dans les prochaines années, la généralisation à 4 ans de la durée de tous les mandats. Ce serait une réponse à la question que vous posez.
Alors, sur la dépolitisation, oui, moi, j'entends cette question comme l'expression vigoureuse d'un tumos démocratique. Et je crois que c'est une très bonne question, et la manière dont vous la posez, avec une forme de vigueur, moi, me réjouit. Non, réellement, en ce sens que plusieurs choses, si vous voulez. Effectivement, il y a un gouffre entre l'expression populaire que nous pourrions souhaiter et le vote qui, effectivement, donne mandat pour une période longue, comme on vient de le dire, et surtout dans un système, comme le rappelle l'article 23, je crois, de la Constitution, où le mandat impératif est nul. Ou même la reddition de compte, qui est une vieille formule, n'est pas véritablement assumée. C'est-à-dire que, si vous voulez, la question est celle précisément de ce que Bernard Manin, que j'ai cité, appelle le gouvernement représentatif. Voilà. Là, on ne doit pas parler pour notre système de, dit Bernard Manin, de démocratie indirecte, mais de gouvernement représentatif. Il y a un effet d'autonomisation du représentant par le mandat. Bon. Alors, c'est tout à fait problématique. Maintenant, effectivement, il y a des campagnes régulières et il y a, vous l'avez compris, dans le système que j'essaie, finalement assez proche de la pensée des Lumières, qui s'est ici exprimée, assez proche de cela, et il y a l'idée que la presse doit être forte. Il faut qu'il y ait régulièrement une information de qualité qui circule, dont les citoyens puissent s'emparer. Alors évidemment, c'est très problématique compte tenu des difficultés des médias, de la reconfiguration des médias par le système électronique, etc. Bon. Quoi qu'il en soit, je relève aussi autre chose dans ce que vous avez dit et je vais m'inscrire en faux, en dépit de la sympathie que m'inspire votre question, contre une chose que vous avez dite qu'on ne peut pas accepter aussi facilement. Vous dites qu'une loi qui est bonne, c'est une loi qui convient au plus grand nombre. Et dans l'histoire, il y a eu des monstruosités qui ont été commises par des communautés politiques avec des lois qui leur convenaient parfaitement dans l'exclusion des autres, dans la victimisation de minorités, de fortes minorités. Moi, en tant que philosophe politique, si vous voulez, spécialiste de Machiavel, je me suis beaucoup posé la question du meilleur gouvernement, parce que Machiavel, c'est celui qui le premier évacue cette histoire en disant un bon gouvernement est efficace, c'est pas un gouvernement qui est juste. Eh bien, il me semble que, si vous voulez, en tout cas, il faut poser la question. Qu'est-ce qu'une bonne loi ? Évidemment, c'est une loi qui nous satisfait en tant que communauté politique, ce terme étant à construire politiquement. Mais en même temps, c'est sans doute une loi qui est juste ou bonne, puisque nous sommes des êtres rationnels quand nous votons, quand nous passons à la généralité, quand nous essayons de sortir de nos intérêts particuliers ou collectifs. Eh bien, si vous voulez, il me semble qu'il faut sans doute viser des lois qui sont bonnes. Voilà, donc je ne parle pas de la dépolitisation, mais il est vrai par ailleurs que tant que les élus ne donneront pas l'impression qu'ils vont produire les meilleures lois possibles, eh bien on aura peut-être du mal à les voter. Mais en même temps, je crois que c'est ce qu'ils tentent de faire. Et nous n'allons pas voter pourtant. Donc la dépolitisation a sûrement des causes très graves. Et là encore, vous voyez, je terminerai par une sorte de recommandation. Cette énergie que vous avez, je pense qu'il convient de l'utiliser. Présentez-vous.
Bien, une question. Vous soyez bref, hein, monsieur, hein, pas trop long. Hein.
Oui.
Ne racontez pas vos voyages à Cuba. Hein.
D'accord. Non, ma question sera plus spécialement à monsieur le ministre Lang et par rapport à ce qu'il vient de nous dire en tout dernier lieu. Est-ce que vous seriez dans l'ordre d'un homme, d'un mandat, c'est à peu près ce que j'ai compris, est-ce que vous seriez d'accord pour que tout homme puisse faire, ou tout homme politique puisse faire au maximum deux mandats de façon continue et 10 ans de retour à la vie civile et ensuite un seul mandat et ensuite plus du tout de mandat? Eh bien oui, ce serait une façon d'éviter la confiscation de la vie politique. Et de façon parallèle, je demanderai à M. Ménessier, je lui dirai, est-ce qu'il a eu l'occasion de lire ce livre qui a été publié en 1968, Machiavel ou les princes de l'entreprise, parce que ça va un petit peu à contre-coup.
Non, vous avez chacun votre question embarrassante. Chacun a sa question embarrassante.
Ce n'est pas du tout embarrassant. Non. D'abord, notez que j'y suis un tout petit peu pour quelque chose avec d'autres, que s'agissant de la plus haute fonction dans notre pays, la fonction de président de la République, nous avons introduit dans la Constitution, à l'occasion de la révision qui remonte à 2 ans, la limitation à 2 du nombre de mandats qu'un président de la République peut assumer successivement. Donc c'est un grand changement dans notre pays. Réduction à 5 ans, décidée lorsque Lionel Jospin était Premier ministre, et limitation à 2 mandats consécutifs pour le président de la République. Sur cette question, faut-il étendre cette proposition, cette décision à d'autres mandats? Certains pays le pratiquent. Je pense aux pays d'Amérique latine, je pense à un grand pays comme le Brésil. Ce qui se produit en général, c'est que, et pourquoi pas, la personne qui, par exemple, est gouverneur d'un État ne peut pas exercer, je crois même que c'est limité à un mandat. Donc, je pense que c'est excessif, je crois. Hein. C'est limité à un mandat. Alors, vous retrouvez cette personne, quelques années plus tard, maire de la capitale. Mettons, vous prenez le gouverneur le maire de Bahia, Salvador de Bahia, devient ensuite gouverneur de Salvador, et ainsi de suite. C'est en même temps une formule qui n'est pas absurde, parce qu'il n'est pas absurde qu'une personnalité, qu'une personne puisse apporter son expérience d'élu dans des mandats différents. Député, 5 ans, maire, plus tard 5 autres années, ou président de région, ou conseiller régional, un peu plus tard. Je pense que ce qu'il faut éviter, c'est le verrouillage, ce qui est le cas aujourd'hui. Il faut éviter que les fonctions et les mandats soient accaparés par un petit nombre de personnes qui cumulent. Et surtout aujourd'hui, nous avons décentralisé, c'est un des acquis des dernières années, donné des pouvoirs aux élus locaux. Et aujourd'hui, un député qui est maire est en même temps président d'une agglomération, président de l'hôpital, président de la société de l'habitat, je ne sais quoi, président d'autre chose. Et donc, du coup, cet homme ou cette femme est complètement étranglé et ne dispose pas, c'est un point important, du temps, de la disponibilité, et déjà même du temps pour réfléchir, pour parler, pour rencontrer. Moi, je ne suis pas hostile à votre proposition, mais à condition que cette proposition, si elle était introduite, elle ne sera pas d'ici, de sitôt. Ne masque pas les autres changements à apporter. Les autres changements à apporter, c'est que le Parlement devienne un véritable contre-pouvoir, que l'on crée au sein du Parlement, comme en Grande-Bretagne, un comité d'audit des politiques publiques, que les ministères, la politique de l'État, la politique de l'éducation, la politique fiscale soient soumises, comme c'est le cas dans les pays nordiques, à des comités indépendants d'évaluation des politiques publiques, et ainsi de suite. Je vous assure qu'il y a, non pas des efforts, pardon de le dire à Thierry Ménissier, mais de grands efforts à accomplir, de grands changements à opérer si nous voulons que la démocratie française respire vraiment. Et nous sommes loin du compte, et votre proposition peut-être est à soumettre au futur candidat à la présidence de la République. Lorsqu'il évoquait les idées les plus folles des philosophes, qui disaient les meilleurs, sous-entendu peut-être les meilleurs, nous avons eu une candidate lors de l'élection présidentielle précédente qui préconisait la création de jurys populaires. Était-ce une bonne idée ? Je vous laisse juge.
Alors, d'autant plus ces considérations
sont,
à mon avis, très fortes, d'autant plus que le titre de l'ouvrage que vous indiquez, que je n'ai pas lu, nous permet aussi de faire rebondir la réflexion. Machiavel aurait été, évidemment, comme spécialiste d'un auteur, je pense souvent à ce qu'il imaginerait s'il revenait, quoi, comment il verrait les choses. Et en fait, prince de l'entreprise, cette formule, pour lui qui est un néo-romain, qui obéit à un paradigme de pensée publique, le choquerait profondément. En effet, vous avez remarqué tout à l'heure que j'ai employé le présent et le passé à propos de la politique. Ce qu'on appelle la politique moderne, ou ce qu'on appelait, ce qui s'appelait la politique moderne. Nous vivons ce matin, un des conférenciers l'a évoqué, nous vivons une globalisation, une mondialisation qui fait que les instruments traditionnels du gouvernement sont maintenant en interaction avec des acteurs privés. On parle de gouvernance d'ailleurs, avec un nouveau concept dont le périmètre est flou. Bien, si vous voulez, il est frappant que, puisque nous parlons ici de démocratie, il conviendrait de s'appesantir sur la démocratie en entreprise. Sur un plan culturel vaste, il me semble que la politique s'est démocratisée, la famille s'est démocratisée, et même, Horresco referens, le couple s'est démocratisé. Eh bien, l'éducation des enfants s'est démocratisée. Eh bien, en réalité, l'entreprise est-elle démocratique ? En termes machiavéliens, en termes néo-romains de la République florentine, vraisemblablement pas encore assez. Mais je vous promets de lire cet ouvrage.
Bien, écoutez, nous allons rester ici après cette belle journée. Demain, nous recommencerons à 14h30 avec une table ronde sur le lobbyisme qui ne serait, promet, à mon avis, de ne pas être triste. Voilà, je vous remercie tous beaucoup et je remercie tous nos participants. Merci, bonsoir.